vais passer la parole à notre premier intervenant, donc Arnaud, qui va nous faire un petit point sur le rapport interministériel sur l'IA, l'ambition pour la France. Emmanuel Macron, je crois, a tweeté derrière que, avec Mistral et tout ça, que la France était leader sur le sujet. Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce rapport ?
Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, je suis un peu impressionné d'être là parce que moi j'ai travaillé pendant 6 mois sur l'IA, mais je pense que par rapport à la plupart d'entre vous, je dois bien moins m'y connaître, en tout cas pratiquement. Alors moi j'ai été rapporteur général de cette commission, c'est-à-dire en gros le secrétaire de luxe qui s'occupe d'écrire les pages que les membres ont décidé, sur les décisions que les membres ont décidé de prendre. Et l'objectif c'est de vous raconter un petit peu ce qu'on a essayé de dire et de faire dans ce rapport. Alors la première chose c'est que la question que le gouvernement nous a posée, c'était comment est-ce qu'on peut faire de la France une grande nation de l'IA, d'une certaine manière. Et nous, on s'est posé un peu plus précisément 3 autres questions qui sont, bon, qu'est-ce que c'est l'IA ? L'IA générative, c'est une nouvelle étape, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qui sont les acteurs en présence ? Est-ce qu'on a une chance de faire quelque chose ? Est-ce que c'est désirable ? Parce que normalement, le gouvernement nous demande de faire de la France une grande nation de l'IA, mais est-ce qu'on a envie d'être une grande nation de l'IA ? Ça veut dire quoi ? C'est important de le faire avec une direction. Et quelles sont les actions qu'il faut qu'on prenne si on veut que la France devienne une grande nation de l'IA. Et ça nous a amené donc à ce rapport qui fait 130 pages, dont on espère qu'elles sont à peu près digestes, et puis 25 mesures. On a auditionné 600 personnes, on a consulté 7000 personnes en ligne. Il y avait 15 membres qui sont tous plus prestigieux et plus connus les uns que les autres, avec vraiment énormément d'expérience. On a vu beaucoup de gens à l'international aussi. Et les mesures que vous voyez ici, en fait, elles ont ensuite une déclinaison très très précise. Donc si vous vous dites, mon Dieu, c'est que du flan, tout ça, cette mesure, il n'y a absolument rien derrière. En fait, il y a tout un document que vous ne voyez pas, dans lequel il y a 10 ou 15 propositions pour modifier des décrets qui, je pense, sont des choses qui vous parlent un tout petit peu moins. Et donc, on a essayé de proposer quelque chose. Le constat qu'on fait et la proposition, c'est une forme d'optimisme raisonné. C'est-à-dire de dire, l'IA, c'est une grande révolution technologique, probablement au moins aussi grande que celle d'Internet. On pense en fait plus grande que celle-ci, parce que notamment il y a une capacité d'appropriation qui avait probablement un peu moins avec l'informatique quand il fallait apprendre à coder. En tout cas, dans quelques années, on imagine que ça se diffusera plus. Donc plutôt du niveau de l'électricité, a priori. Donc c'est quelque chose vraiment assez colossal qui va se diffuser dans toute la société. On pense que la France et l'Europe sont en retard. Et ça, c'est un message assez important de ce rapport. Il y a des leaders importants, il y a des gens qui sont très forts, il y a des talents incroyables, mais il y a un retard important dans les services numériques, c'est pas spécifique à l'IA, hein, c'est vraiment les services numériques, et dans les infrastructures numériques surtout, et ça c'est un point assez crucial. Et donc, d'une certaine manière, avec tous les atouts qu'on a, on peut pas juste se reposer sur nos lauriers. Si on veut saisir cette révolution, il faut une mobilisation. Et cette mobilisation, il faut probablement qu'elle soit assez générale. Et donc, c'est un peu le grand message du rapport, c'est de dire, mettons beaucoup de nos forces comme ça dans cette bataille, dans le financement, la puissance de calcul, les données, les talents, dans le fait de donner confiance aussi sur ces technologies. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, une fois qu'on a dit cette mobilisation générale ? Ça veut dire d'abord s'en saisir, se l'approprier, c'est d'ailleurs le premier point, les premières mesures, c'est de dire il faut s'approprier cette technologie, il faut le tester, il faut, dans différents moments, à l'école, à l'université, dans la vie professionnelle, qu'on teste un peu ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on se rend compte que les gens, quand on dit les Français ont peur de l'IA, en fait, ce n'est pas complètement vrai. Quand vous demandez aux Français s'ils ont peur de l'IA en général, ils répondent à peu près comme plein d'autres pays, en fait. C'est qu'ils ne savent pas très bien ce que c'est flou, c'est peut-être dangereux, et donc ils sont un peu précautionneux. Quand vous leur dites l'IA pour venir résumer des comptes rendus de votre médecin, ça leur fait beaucoup moins peur. Et donc, plus tout le monde se saisira et testera un petit peu des choses concrètes et on leur dira, en fait, l'IA, c'est déjà là pour choisir, vous aider à repérer le visage de quelqu'un que vous aimez bien dans vos photos sur votre iPhone, ça, c'est de l'IA. En fait, ça existe déjà, juste ça fait beaucoup moins peur. Et donc, il y a plein de mesures qui visent, en fait, à catalyser comme ça un peu l'appropriation. Et je pense que les événements comme celui-ci sont, d'une certaine manière, déjà les premières briques qui permettent de diffuser cette technologie un peu généralement. La deuxième raison pour laquelle c'est important de tester, c'est qu'en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on ne sait pas très bien encore à quoi ça va ressembler. Si on pense que c'est une révolution technologique, ben ça se déploie sur des dizaines d'années, des révolutions technologiques. Et comme ça a été dit juste avant dans la petite introduction, il y a des choses où on arrive à les faire et on ne sait pas très très bien encore à quoi ça va servir. Et donc, il faut tester les UX, faut tester les usages. Probablement que le chatbot, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'utilisation de l'IA. Il va y avoir plein de choses qu'on va inventer, plein de produits qu'on va inventer. qui vont nous permettre de tirer un peu parti de tout ça. Et j'aime bien, dans les multiples parallèles, quand on regarde la précédente vague de l'IA sur la vision par ordinateur, au début, il y a plein de gens qui disaient, bon, ok, on peut repérer ce qui est un chat et un chien, je ne suis pas sûr que ça me servait vraiment à grand-chose. Et la question ensuite, c'est quels sont les problèmes que je peux transformer pour qu'ils deviennent des problèmes de vision par ordinateur. Et donc, tout d'un coup, des problèmes, par exemple, de qualité, de contrôle qualité dans l'industrie, qui avant étaient faits avec toutes des batteries de tests, vous dites, ah, en fait, moi, à l'œil nu, je ne sais pas voir dedans qu'il y a des défauts, mais l'IA peut le faire. Et donc, vous avez transformé votre problème et tout d'un coup, ça devient un problème où l'IA est intéressante. Dans l'IA générative et dans les autres modèles d'IA, il y a probablement tout ce travail à faire. On a tous à inventer un peu comment nos problèmes peuvent être des problèmes solubles par l'IA. Et ce que ça nous amène, ça, comme message assez important, c'est que le champ économique, d'une certaine manière, et des opportunités de l'IA, il est très, très vaste. Et on a un peu tendance, en France et en Europe, à se focaliser uniquement sur les très, très gros. Et donc, on est triste parce qu'on n'a pas de GAFA, parce que NVIDIA, ce n'est pas chez nous, parce que STMicro ne fait pas ce que fait NVIDIA. Bon, on peut toujours être triste de ce qui s'est passé par le passé. Mais nous, quand on regarde, on se rend compte qu'il y a un autre problème. C'est qu'il y a des acteurs qui sont de rang 2 et de rang 3 qui ne sont quand même pas chez nous. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'Amazon, c'est un BMS absolument indétrônable, etc. Il y a Shopify, c'est une entreprise canadienne qui est allée numériser la plupart des petits commerces pour en faire du e-commerce. Shopify, ça fait 80 milliards ou quelque chose comme ça de capitalisation. Et pourquoi ça n'existe pas en Europe ? Stripe, c'est deux Irlandais qui sont allés dans la Silicon Valley, qui ont créé une brique de paiement. On aurait pu se dire, bah non, ça vous comprenez, c'est impossible à faire, c'est trop compliqué. Et pourtant, ça existe. Et donc, et encore en dessous, ça c'est des incroyables réussites, mais encore en dessous, vous avez plein d'autres entreprises qui sont des super succès. Donc, bon, c'est très bien qu'on se pose la question de comment on fait pour avoir la prochaine big tech, parce que l'IA est une disruption, et donc dans toute disruption, on peut espérer qu'on déboulonne un petit peu les grands qui sont installés. C'est un espoir, on peut l'avoir, je pense qu'il faut vraiment nos forces dedans. Mais il y a plein de valeurs à créer en France, en Europe, rien qu'en déployant déjà ce qui existe en fait aujourd'hui et en essayant de créer des business autour de ça. Et donc, ne nous focalisons pas que sur les très, très grands. Alors, peut-être pour dire deux mots dans les quelques minutes qui me restent sur la créativité, il y a toute une partie du rapport sur les métiers qui changent et les métiers qui vont avoir, qui vont être bousculés et potentiellement supprimés, c'est la grande crainte par l'IA. Et la conclusion à laquelle on arrive avec plein d'études, c'est en fait, l'IA détruit pas des tâches, mais des emplois, mais détruit des tâches. Dans la créativité, ça a déjà été le cas plein de fois. La question, c'est comment est-ce qu'on remodèle toutes ces tâches-là pour s'en saisir. Il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai vu une startup qui s'appelle Pimento, par exemple, qui est hyper intéressante parce qu'elle essaie vraiment de proposer un workflow pour arriver à choisir des options sur des images qui sont générées sur la base ensuite d'un moodboard. Et donc, il y a plein de choses à faire là-dedans. Les créatifs sont toujours saisis des nouvelles technologies. Donc, on ne voit pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui. Et puis, peut-être pour mon dernier message, et qui est un message important du rapport. Je pense que vous en êtes tous conscients, mais une révolution technologique, c'est sur le temps long. Et le temps long, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui nous semblent aujourd'hui très excitantes, qu'on n'arrivera pas à faire ou qui ne seront pas rentables parce que ça coûte trop cher. Il faut arriver à ne pas surestimer à court terme et pas sous-estimer à long terme cette révolution. Il faut arriver à tenir les deux bouts. C'est compliqué pour un gouvernement à faire. C'est peut-être plus simple pour des entrepreneurs à faire. Et donc, essayons de continuer à itérer. C'est un peu l'erreur qu'a faite l'Europe après la bulle Internet. De telle manière, on a abandonné en se disant bon, finalement, ces sites pour réserver des gens qui venaient promener vos chiens, c'était un peu une connerie. On va faire des trucs un peu sérieux. On a abandonné. Ce serait dommage de faire la même chose aujourd'hui. Et donc, il faut continuer à construire. Merci.
Merci Arnaud. C'était parfait. C'était hyper clair, synthétique en 7 minutes. On va prendre donc, comme on a dit, deux questions pour Arnaud de la part du public. Qui a une question sur le rapport Christian ?
Merci Arnaud. Si on devait retenir une mesure un peu forte et que tu espères voir adoptée, ça serait laquelle ?
C'est une bonne question, j'aurais dû la préparer celle-là. La principale, je pense, c'est celle sur l'appropriation. Je pense, en tout cas, dans ce qui nous manque aujourd'hui beaucoup en France, notamment, c'est le fait. Donc il y a toute une mesure qui en fait se décline en plein de choses très opérationnelles pour aller amener l'IA proche des gens, que les gens s'en saisissent, qu'ils testent avec ça, qu'ils se rendent compte à la fois que c'est mieux que ce qu'ils pensaient, que c'est parfois moins bien que ce qu'ils pensaient, et que Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. J'ai fait l'expérience, vous demandez, je m'occupe d'une formation à côté, et vous demandez à des élèves d'utiliser ChatGPT. Moi, je leur ai dit, ça arrive, il faut que vous écriviez quelque chose avec. Et ils sont revenus en me disant, bon, c'est pas très intéressant, je vais demander d'écrire mon truc, c'est pas très intéressant. Parce qu'ils ont demandé, bah, écris-moi 4 pages sur tel sujet. Et ça, c'est pas très intéressant. La réalité, vous devez tous le savoir, un chatbot aujourd'hui comme ChatGPT, c'est vachement intéressant quand vous itérez avec lui, quand vous lui demandez de raffiner quelque chose, de donner des exemples, de faire de la variation, etc. Et ça, s'ils le font pas, ils vont se dire, ah, c'est des conneries, je comprends pourquoi est-ce que tout le monde met tant d'argent dessus. Et si on veut que les gens s'investissent dedans, se forment à ça, mettent de l'argent, construisent des business, etc., et n'en aient pas peur, bah, il faut qu'ils se disent « ça ne fait pas peur » et en plus, je vois que c'est moi qui maîtrise le fait que ça ait de la valeur. Et donc ça, je pense que de ça découle plein de choses, découle aussi plein d'énergie politique. Plus les gens auront envie de construire de ça, là-dessus, et plus il y aura l'énergie politique pour les autres mesures qui sont, je pense, aussi importantes. Mais si tout le monde y est un peu rétif, on aura plus de mal à les déclencher.
Bonjour Arnaud, merci. Quelle a été la plus grande surprise que tu as eue pendant tout ce travail ?
Ce qui m'a surpris, c'est, je pense, la capacité des gens qui travaillent dessus, et vraiment à la pointe de ça dans toutes les boîtes que vous pouvez connaître et puis dans la recherche, à être à la fois extrêmement excité de ce qui est en train de se passer, de se dire on a réussi des trucs incroyables dans ces dernières années. D'ailleurs, il n'est pas certain que ça continue de façon définie. Enfin, vous connaissez tous les problèmes qu'on va avoir à un moment sur les données ou la puissance de calcul avec le paradigme actuel. Mais déjà, si on arrive à diffuser tout ça, c'est extrêmement excitant. Et en même temps, donc, ils arrivaient à avoir à la fois ça, tout en étant très très sérieux et serein sur le fait que ça ne va pas être tout de suite, il y a plein de choses à inventer, ne prétendons pas que ça va détruire le job de tout le monde dans 2 ans, ça c'est pas du tout vrai. Et cette espèce d'honnêteté intellectuelle des gens qui travaillent sur l'IA, et c'est là que moi je trouve leur grande puissance et leur capacité à penser sur le temps long. Ça fait 10 ans, 20 ans, et Yann LeCun, voilà, vous savez, connaissez toute l'histoire, il a vécu l'hiver de l'IA, et je pense que ça c'est un truc qu'on a souvent un peu du mal à faire, et ils arrivent vraiment à se projeter là-dessus. Et j'ai trouvé ça, cette honnêteté intellectuelle, j'ai trouvé ça très, très puissant. Et je pense que c'est un message important, c'est pour ça d'ailleurs que c'est dans le rapport.
Merci beaucoup Arnaud, merci d'être venu nous présenter ce rapport. C'était super. Merci.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux. Et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt !